La carte Visa Orange Monnaie, retrait et paiement dans toute la zone UMOA, en partenariat avec la Banque Atlantique, vous propose l'émission Appel sur l'actualité.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
François Mazet.
Bonjour à tous, bienvenue, cet appel sur l'actualité, votre émission chaque jour pour savoir, comprendre et débattre, espace d'expression qui vous sera ouvert dans une demi-heure. Notre discussion du jour sur le gouvernement, toujours attendu en RDC. On en connaît l'ossature, 65 membres répartis entre les coalitions FCC et CASH, deux tiers, un tiers grosso modo, mais pas le détail. Plus de 7 mois après les élections, nous attendons donc vos réactions sur la taille, les équilibres de cette équipe, sur ces délais qui courent, ces tractations qui dure. Qu'attendez-vous de la future équipe de Sylvestre Ilunga Ilunkamba? Vous venez nous le dire par téléphone 33 9 693 693 70, sur WhatsApp 33 6 89 28 53 64. Sur la page Facebook de l'émission également, vous êtes nombreux à témoigner déjà et vous avez aussi beaucoup de questions. Hein, et Sonia Rollet d'ailleurs sera avec nous pour répondre à certaines d'entre elles dans quelques minutes. Avant cela, de parler donc longuement de la RDC, nous sommes en ligne de Bouaké dans le nord de la Côte d'Ivoire avec Yabao. Bonjour.
Bonjour François, bonjour à toutes les auditeurs de RFI.
Yabao, vous avez des questions sur un épisode diplomatique pour le moins étonnant. Cela s'est déroulé la semaine dernière lorsque le président brésilien Jair Bolsonaro a annulé au dernier moment une rencontre avec le chef de la diplomatie française Jean-Yves Le Drian. Annulé donc au dernier moment pour aller chez le coiffeur. Forcément, ça a beaucoup fait jaser. Et vous aviez des questions sur ce sujet, Yabao.
Bien sûr. Pourquoi le président brésilien affiche-t-il son hostilité vis-à-vis de la France?
Eh bien, on va le demander à Elcio Ramalho de la rédaction brésilienne de RFI. Bonjour.
Bonjour François.
Alors, éclairez-nous sur les sous-titres et les conséquences de cette attitude cavalière du président brésilien. Annuler une rencontre diplomatique de haut niveau au dernier moment et s'afficher juste après en Facebook Live en train de se faire couper les cheveux, on peut parler de mépris.
Ah oui, tout à fait. En fait, ça a été très critiqué, ces comportements du président brésilien. En fait, juste pour répondre directement à la question, la toile de fond est surtout la politique du gouvernement Bolsonaro, ce président d'extrême droite, pour la préservation de l'environnement et de la biodiversité. On va rappeler que Bolsonaro est un climato-sceptique. Il a déjà menacé de faire sortir le Brésil de l'accord sur le climat. Après, il est revenu sur ces sujets. Donc, le gouvernement français exige que le Brésil assume ses responsabilités dans la lutte contre le réchauffement climatique. Mais ce qui s'est passé au Brésil, cette annulation des dernières minutes, le président Bolsonaro a essayé de justifier montrant mécontentement avec les programmes et l'agenda du ministre Le Drian au Brésil et pourquoi le chancelier français a rencontré les membres de la société civile, dont l'ancienne ministre de l'écologie de Dilma Rousseff. Il a rencontré des ONG qui défendent la lutte et la préservation de l'environnement. Donc, il s'est montré très mécontent. Il a même dit, dans une interview, qu'est-ce qu'il est venu ici discuter avec les ONG. Dès qu'on parle avec une ONG, il y a une alarme qui s'allume dans la tête de celui qui a un minimum de bon sens. Donc, on voit un langage un peu diplomatique, pas très, on va dire, diplomatique.
Jean-Yves justement. Le Drian, lui, il a dit « Je suis venu parler à tous les Brésils ». Et c'est ça que Jair Bolsonaro n'accepte pas.
Pas justement, il est allé au nord-est du Brésil, au nord du Brésil, pour parler avec ses plusieurs Brésils. Et justement, la France est un pays très critique par rapport à ce qui se passe au Brésil. On va rappeler aussi que le président Emmanuel Macron a reçu ici à l'Élysée le chef indien Raoni, qui est venu parler justement de son inquiétude par rapport à cette politique du gouvernement vis-à-vis des terres des Indiens, parce que Bolsonaro, il veut absolument n'est plus démarqué des terres pour les Indiens et justement faire le contraire, ouvrir à l'exploitation pour les orpailleurs. Donc tout cela fait en sorte que la France critique beaucoup la politique du gouvernement.
Yabao, vous avez une autre question pour nous.
Oui. Quelles conséquences cet incident peut avoir sur les relations diplomatiques et économiques entre la France et le Brésil ?
Alors, Elsieur, Jean-Yves Le Drian, lui, il a préféré ironiser. Ce week-end, il a déclaré que l'urgence capillaire lui était une préoccupation étrangère. On rappelle pour nos auditeurs que Jean-Yves Le Drian est chauve. Mais alors, passé ce coup d'éclat, est-ce que cet incident peut avoir des conséquences sur les relations entre la France et le Brésil?
Bon, en fait, le gouvernement n'a pas voulu réagir tant qu'Yves Le Drian était au Brésil. Donc, il a parlé justement
quand il est rentré à Paris.
Donc, il a consacré cette interview. Mais la presse brésilienne a beaucoup critiqué le comportement de Bolsonaro. Et ici, en France aussi, on a parlé d'une tentative d'humiliation, etc. Le problème, c'est qu'il y a la ratification de l'accord Union européenne-Mercosur. En fait, c'est ça qui peut poser un problème, en fait, ce comportement de Bolsonaro. Et pourquoi la France exige, d'ailleurs, à créer une commission pour suivre, en fait, la politique d'environnement contre la...
Absolument, intégrer l'accord de Paris et notamment la lutte contre la déforestation.
Ça, c'est vraiment impératif pour que la France puisse rectifier cet accord. Donc, là, ça va vraiment poser un problème. Mais en ce qui concerne la relation bilatérale économique entre Brésil et la France, je pense qu'il n'aura pas d'incidence majeure. Même Le Drian qui a rappelé qu'il y a 1000 entreprises françaises présentes au Brésil, il y a une relation bilatérale entre les deux pays très forte, très ancienne, donc il y a des intérêts économiques qui ne seront pas
Il n'y aura pas d'impact direct sur les relations quotidiennes.
Par contre, sur la ratification de l'accord Union européenne-Mercosur, on verra la suite.
Merci Elsieur Amalo d'avoir été avec nous et merci à Yabao qui était en ligne de Bouaké en Côte d'Ivoire. Direction la Guinée maintenant, Alpha nous attend à Conakry, bonjour.
Bonjour Monsieur François et bonjour à tous les auditeurs.
Alpha, vous aviez des questions sur un triste anniversaire dont on a parlé sur l'antenne de RFI vendredi.
Tout à fait, Monsieur Mazé. Il y a 20 ans exactement, le corps de deux jeunes Guinéens, Foudé et Yagine, ont été découverts dans le train d'atterrissage d'un avion à l'aéroport de Bruxelles. Monsieur Mazé, moi j'aimerais savoir qui étaient ces deux jeunes et comment ont-ils pu monter dans cet avion.
Et on va le demander à Coralie Pierret. Bonjour Coralie.
Bonjour.
Au service Afrique de RFI, ancienne correspondante en Guinée. Coralie, Fodé, Yagine, ils avaient 14 ans, 15 ans. C'était tout simplement deux adolescents qui rêvaient d'un avenir meilleur.
Oui, c'était deux amis avec une seule idée en tête, celle de rejoindre l'Europe. Alors, ils ne semblent pas être partis subitement de Conakry, à tel point que quelques jours avant leur départ, à l'été 1999, les adolescents écrivent une lettre adressée aux dirigeants européens dans la chambre de Yagine, raconte à RFI son père, Liman Koïta. Alors, pour accomplir leur rêve, ils grimpent dans ce train d'atterrissage d'un avion de la Sabena, l'ancienne compagnie aérienne belge.
Et les deux corps sont retrouvés au début du mois d'août à Bruxelles.
Et la famille continue de se demander comment ont-ils pu monter dans ce train d'atterrissage. C'est une théorie qui est encore contestée par certains proches de Fodé et Yagine. Liman Koïta, le père de Yagine, n'en démord pas. Ils avaient des complices à l'intérieur de l'aéroport. Mais pour autant, l'enquête guinéenne, nous dit-il, n'a pas réellement abouti depuis 20 ans.
En tout cas, Coralie, ils avaient avec eux cette fameuse lettre écrite à Conakry avant leur départ et qui a ému le monde entier.
Excellence, messieurs les responsables de l'Europe, c'est ainsi que commençait cette lettre avec un vocabulaire à la fois juvénile et touchant. Fodé et Yagine exposent leur espoir, l'espoir d'une Afrique en paix et surtout avec un accès plus large à l'éducation. Nous voulons étudier, nous vous demandons de nous aider à étudier pour être comme vous en Afrique, peut-on lire dans cette lettre. Alors dans leur pays d'origine, la Guinée, selon la Banque mondiale, le taux d'alphabétisation a très légèrement augmenté, mais il reste bas, parmi les plus bas du monde. 20% de la population savait lire et écrire en 1996, 3 ans avant le départ de Fodé et Yagine, et seulement 32% savait lire et écrire 18 ans plus tard, en 2014.
Alpha à Conakry, vous aviez d'autres questions pour Coralie?
Tout à fait, Monsieur Mazé. Depuis quelques années, les jeunes Guinéens sont de plus en plus nombreux à prendre la route de l'exil. Comment expliquer ce phénomène et que fait le gouvernement pour endiguer le flux migratoire?
Alors Coralie, à l'époque, Fodé et Yaguine, eh bien leur histoire était peu commune hein, en Guinée, mais aujourd'hui de nombreux jeunes Guinéens tentent le chemin clandestin vers l'Europe.
Oui, peut-être avec les mêmes rêves que Fodé et Yaguine dans la tête. En 2018, les Guinéens étaient la première nationalité parmi les mineurs non accompagnés en France. L'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, a reçu 6454 demandes d'asile de Guinéens l'année dernière. Certainement beaucoup plus ont tenté le chemin du désert puis de la Méditerranée en vue d'atteindre les côtes européennes, mais aucune statistique ne permet d'affirmer combien d'entre eux y ont laissé leur vie.
Cette forte augmentation des arrivées, elle a commencé il y a 4 ans environ. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer, Coralie ?
Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas eu un bouleversement politique ou économique majeur ces 4 dernières années ou de catastrophes naturelles en Guinée. En 2017, une mission de l'OFPRA est venue à Conakry justement pour essayer de comprendre pourquoi cette augmentation. Et dans son rapport, l'OFPRA a expliqué que la demande d'asile guinéenne se caractérisait par sa diversité. Il n'y a pas une large tendance qui se dégage pour expliquer ces départs. Selon ce rapport, les profils vont de militants politiques de l'opposition à des personnes se disant persécutées du fait de leur confession. Les motifs liés à des conflits familiaux et sociétaux étaient par ailleurs invoqués aussi de manière croissante. Crainte de subir des mutilations sexuelles féminines, des mariages forcés ou des menaces liées à l'orientation sexuelle.
Merci Coralie d'être venue nous voir ce matin. Merci à vous, à Alpha, de votre fidélité à RFI. Et je vous rappelle que sur nos applications, notre site internet, vous pouvez notamment entendre les témoignages de membres des familles de Fodé et Yaguine. Direction la RDC maintenant. Vous avez été nombreux à nous poser des questions sur la situation politique dans le pays. C'est ce qu'on va tâcher de faire dans les prochaines minutes avec Sonia Rollet. Bonjour Sonia.
Bonjour.
On va commencer par joindre Claude à Kisangani. Soyez le bienvenu, Claude.
Alors, bonjour, RFI. Bonjour, François Mazur.
Claude, vous aviez des...
Pardon ?
Oui, allez-y, Claude, on vous écoute. Vous aviez des questions sur la coalition Lamouka.
Oui, exactement. Pourquoi ce soit une coordination tournante ? Qui a retenu du rôle de Moïse Katumbi à la tête de la coordination ?
Sonia, Lamouka change de coordonnateur tous les 3 mois, c'est une simple question d'organisation, ou est-ce qu'il faut y voir une manière d'essayer de ne pas personnaliser cette coalition d'opposants ?
Ouais, je pense que ça fait partie effectivement des objectifs. Il y avait au départ 5 membres de Lamouka, puis 6, là maintenant il se retrouve plus que 4 donc dans cette coalition, mais il y a des profils politiques qui sont quand même tous très importants. On a un ancien vice-président, on a un ancien gouverneur du Katanga, donc Moïse Katumbi, un ancien vice-président Jean-Pierre Bemba, Martin Fayoulou qui a été quand même le candidat également à la présidentielle, et Adolphe Mouzito qui est un ancien Premier ministre, et chacun a envie de jouer un rôle politique dans son pays. On ne parle pas déjà des prochaines élections et de candidature unique. On a vu comment c'était difficile déjà pour ces élections en 2018 d'arriver à ce résultat. Donc cette coalition, c'est vraiment une coalition qui vise à essayer tenter justement d'harmoniser les positions de l'opposition. Au départ, c'était une plateforme qui était une plateforme électorale pendant les élections, là maintenant plateforme politique depuis cette année. Et donc effectivement, le principe même d'avoir un seul chef, ça rendrait beaucoup plus compliqué en fait l'organisation de cette... Là, ça leur laisse vraiment une marge de manœuvre. On a vu par exemple Martin Fayoulou était ce week-end seul
à Kinshasa
en meeting. Voilà, en meeting avec son parti. Ouais.
Alors Moïse Katumbi a dirigé Lamouka pendant les derniers mois. Qu'a-t-il fait ?
Alors, essentiellement, il est rentré. Il a donné un peu le coup d'envoi du retour de l'opposition en fait en RDC. Et c'est vrai que c'était une période un peu charnière, difficile en fait pour Lamouka. Il y a eu des nominations par exemple simplement pour organiser la plateforme, donc des secrétariats, des conseillers, des porte-paroles, ce qui a permis de clarifier un peu la communication de Lamouka. Mais c'est vrai que l'enjeu essentiel c'était de maintenir cette unité de l'opposition. On a vu quand même que Freddy Matungulu, donc l'un des membres de Lamouka, est parti. Il a été nommé comme conseiller à l'Abad par Félix Tshisekedi, enfin proposé à ce poste. On a vu également
Boussania Mouissi
partir pour rejoindre Félix Tshisekedi dans la lutte contre Ebola. Et c'est vrai que, bon, ça c'était vraiment l'élément compliqué de savoir jusqu'à quel point ils allaient pouvoir rester ensemble. Mmh. Cette réunion disait que c'était la réunion de la dernière chance pour harmoniser les vues. Finalement, les quatre derniers sont restés ensemble, en tout cas jusqu'à présent, et on verra ce qui se passera dans 3 mois.
Alors justement, il y a une question de stratégie que vous vous posiez, Claude.
Quelle va être désormais la stratégie de la Mouka pour organiser l'opposition? Quand peut-il continuer la lutte pour la vérité des jeunes comme le souhaite Martin Fanon?
Alors Sonia, quelle stratégie pour la Mouka? En tout cas, dans son communiqué à l'issue de sa dernière réunion, la Mouka a dénoncé la fabrication des résultats et réaffirmé sa victoire aux élections du 30 décembre. Est-ce qu'on peut dire toutefois que la ligne politique est tranchée?
Non, ça on peut pas, évidemment, c'est compliqué. On a deux leaders politiques et surtout Martin Fayoulou, candidat à la présidentielle, qui estime toujours être le président élu, qui lui continue de se battre pour la vérité des urnes. Mais dans le cas de Moïse Katumbi, qui est quand même rentré au pays avec l'aide, avec le soutien de Félix Tshisekedi, il est pas du tout sur cette ligne-là. On parle d'une opposition plus républicaine, voilà. Il parle d'une opposition républicaine, il reconnaît le président de la République, puisqu'il a remercié en tant que président de la République. Et donc, c'est vrai que dans cette stratégie-là, sur ce point-là, le minima sur lequel il serait d'accord, c'est qu'il y a un problème de légitimité, en fait, des institutions à l'heure actuelle, de toutes les institutions, y compris de la présidence de la République, et que ce qu'il faudrait, en fait, pour rétablir la vérité des urnes, ce serait, à la limite, de faire une nouvelle élection. Donc ça, tous les leaders de la Mouka seraient d'accord avec ce dispositif. Est-ce qu'ils seraient capables de l'obtenir à l'heure actuelle? Dans les circonstances actuelles, ça paraît compliqué, vu le rapport de force entre les deux, mais en tout cas l'idée c'est aussi d'être là et d'être une vigile de cette coalition cash-FCC puisqu'ils se retrouvent avec leur ancien collègue de l'opposition quand même Félix Tshisekedi, qui est maintenant en coalition gouvernementale avec Joseph Kabila. Donc ils vont continuer de siéger au Parlement et de faire une opposition au Parlement et également d'essayer de trouver des espaces avec des manifestations, des meetings.
Alors justement, cette coalition FCC cash, on y vient avec Vital qui est à Bukavu. Bonjour.
Bonjour François Mazé, bonjour c'est l'équipe, bonjour Sonia Rollet.
Vital, vous vouliez revenir sur la composition de cette équipe qu'on n'a pas encore. On a l'ossature, mais vous aviez des questions, elle vous intrigue cette ossature.
Oui. La répartition des sièges au sein du gouvernement congolais a été rendue publique. Les fonds formés pour le Congo, c'est un rendu ministère contre 23 pour les cas de changement.
Alors question, Vital, on ne vous entend pas très bien. Je suis désolé. Vital, je vais relayer vos questions auprès de Sonia parce qu'on ne vous entend pas très bien. La composition, donc on n'a pas les noms, mais les équilibres, c'est 65 membres, 42 pour le FCC, 23 pour le cash. Comment est-ce qu'on peut justifier déjà la taille d'un tel gouvernement?
Alors justement, c'est un accord de coalition entre des forces qui ne se font pas complètement confiance et pour lequel c'est vrai que c'était assez compliqué de décider ou de faire cette répartition. On a vu par exemple c'était très très compliqué pour les ministères régaliens qui sont les ministères principaux en fait de gestion de l'État. Et ça a été d'ailleurs l'un des points qui a posé le plus problème pendant toutes les négociations et qui explique aussi pourquoi ça a duré aussi longtemps. Et on voit bien que là-dedans, il y a eu une division, ministère des Affaires étrangères et ministère de l'Intérieur qui passe chez Cash. Mais Joseph Kabila et sa coalition obtiennent la défense et la justice. On voit que pour ces postes-là, il y a volonté aussi du côté des deux coalitions en fait d'avoir quand même un vice-ministre là-dedans.
Donc, pour rééquilibrer l'ensemble.
Pour rééquilibrer l'ensemble. Donc c'est une manière un peu de dédoubler, c'est un peu la crainte d'ailleurs de la société civile, de dédoubler ou de s'auto-contrôler dans un système. Et puis après, il faut savoir que quand même, la coalition du FCC, c'est une coalition extrêmement large avec énormément de partis.
Hétéroclite, on l'a vu au Sénat d'ailleurs, où ça a posé pas mal de soucis.
Voilà, et où, pour maintenir ces coalitions, il faut quand même que chacun ait un poste. Et c'est un peu aussi là ce qui était reproché par la société civile, c'est de dire...
Le clientélisme.
Oui, on est sur une forme de clientélisme et que c'est pour ça qu'il y a cette taille-là et que jamais au Congo on avait eu des gouvernements aussi larges.
Alors je vais relayer la seconde question de Vital. Il se demande quand est-ce qu'on aura la liste des ministres, où en est-on?
Alors, il y a eu les propositions, on a vu tout ce week-end le Premier ministre consulté, et c'est vrai qu'il reçoit notamment des gens comme Bathilou Kouébo, l'ancien ministre, qui demande à rentrer au gouvernement mais qui ne fait plus partie d'aucune des deux coalitions. Donc ça risque de prendre un peu de temps, et notamment parce que du côté de Cash, on aimerait bien qu'il y ait des nouveaux visages dans ce gouvernement, y compris du côté du FCC. C'est vrai qu'avec 42 membres, alors que sur les derniers gouvernements on était à 50-55 membres, on risque d'avoir l'impression très rapidement d'avoir un peu le même gouvernement.
Merci en tout cas Sonia Rollet, cette clé de répartition, cette ossature, on en parle longuement dans le journal avec vous, les auditeurs, vous réagissez nombreux, rendez-vous dans 10 minutes.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Money, leader du transfert d'argent.